Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors c'est le 97e épisode de l'émission et aujourd'hui nous sommes trois dans le studio, Fred, Axel et nous avons un invité, Jean-Baptiste.
Bonjour.
Et bonjour à toutes et à tous.
Alors on est bien content de vous retrouver cette semaine pour parler d'astronomie avec vous à l'antenne. On vous rappelle que vous pouvez trouver tous les podcasts de l'émission depuis le début sur le site de RDWA, rdwa.fr. Vous allez dans les émissions thématiques et vous trouvez toutes ces émissions illustrées par des photos du ciel prises principalement par Axel et Rémi. Voilà, on vous rappelle aussi le mail de l'émission si vous voulez nous contacter, astro-rdwa@protonmail.com. Si vous voulez nous faire des commentaires ou éventuellement venir participer à l'émission dans la rubrique Nouvel Œil, comme Jean-Baptiste aujourd'hui, sachant qu'il va falloir vous dépêcher puisqu'on va s'arrêter à la 100e. On l'a déjà dit dans les dernières émissions, on vous le redit. Pour l'instant, personne ne s'est manifesté, mais si quelqu'un se réveille et souhaite reprendre l'émission à notre suite, vous serez les bienvenus et bien accueillis. Voilà. Pour cette petite introduction, alors le sommaire de cet épisode, on va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir. Ensuite, ce sera la chronique astrale et là, moi, je vous parlerai cette semaine d'astronomie en rayon X et en rayon gamma pour clôturer un petit peu cette série d'émissions que j'avais faites sur l'astronomie dans les différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Et puis, après la pause musicale, ce sera la rubrique Nouvel Œil. Et donc là, nous accueillons Jean-Baptiste, qui est astrophysicien, s'il vous plaît. Donc on est ravis de t'accueillir et qui va nous parler à la fois de son parcours et puis aussi de son travail, avec quelques résultats originaux à nous présenter. Voilà pour ce sommaire. On va démarrer avec le ciel ce soir. Et cette semaine, Axel, c'est toi qui vas nous faire rêver.
Ouais, le ciel de cette fin du mois de novembre 2025. Je vais commencer par les planètes, tiens. Puisque d'habitude, on commence par les constellations. Non, cette fois, ça sera les planètes. Eh bien, on a, dès la tombée de la nuit, tout à fait visible Saturne, qui faiblit de semaine en semaine, mais qui reste encore bien visible. Et je vous rappelle, au passage, pour être sûr que ce soit Saturne, comparer son éclat avec n'importe quelle autre étoile, et normalement, à moins que vous soyez sur un ciel spatial, un ciel d'excellente qualité. Bon, en tout cas, normalement, on voit les étoiles scintiller légèrement, mais pas la lumière de Saturne, qui est donc à l'est, déjà assez haute quand la nuit tombe.
Sous Pégase.
Sous Pégase, exactement. Qui est même visible avant que Pégase ne le soit. Et puis, un petit peu plus tard, il vous faudra attendre, mais pas non plus très longtemps, pour voir se lever sous les Gémeaux, Jupiter, c'est aux alentours de 10 heures, à peu près 10 heures et demie, si, pour peu que vous soyez qui est de montagne côté est. Voilà, Jupiter qui, elle, pour le coup, c'est difficile de passer à côté. En ce moment, c'est vraiment un phare dans la nuit. Elle est extrêmement brillante. Je pense que c'est l'étoile la plus brillante, enfin étoile, c'est une planète, mais dans le terme générique, l'étoile la plus brillante du moment, elle est magnitude moins 2.
Oui, elle est pas loin de Sirius, et même Sirius a du mal à rivaliser avec.
Exactement, ouais, Sirius qui se lève un peu plus tard, dans la même direction, forcément, à l'est, mais ouais, qui peine à rivaliser avec l'éclat de la géante gazeuse du dieu des dieux, de la plus grosse planète de notre système solaire, qui est Jupiter.
On peut mentionner, on l'avait dit la semaine dernière, que Jupiter a entamé un mouvement rétrograde. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle se déplace en sens inverse de son mouvement habituel sur le fond du ciel.
Si on la suit de semaine en semaine. Ouais.
Et par contre là, Saturne qui était dans un mouvement rétrograde va à la fin du mois repartir dans son sens de rotation habituel, de déplacement habituel.
Alors évidemment, c'est pas elle qui se met à partir dans l'autre sens, c'est toujours un jeu de perspective par rapport à la Terre qui tourne plus vite que ces géantes gazeuses.
Tout à fait, et puis surtout à l'intérieur, plus près du Soleil.
Voilà, plus près du Soleil, plus vite, et des moments où on la double, et on les double en perspective. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on a l'impression qu'elles partent vers l'Est.
Mais c'est un petit jeu auquel on peut s'amuser.
Vers l'Ouest,
oui. C'est un petit jeu auquel on peut s'amuser, qui est d'essayer de voir justement de mesurer un peu à l'œil hein, ces déplacements des planètes. Alors d'un soir sur l'autre, c'est difficile, mais d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, en tout cas, c'est flagrant.
Ah oui.
Ça, c'est sûr. Mais sur 10 jours, déjà, on peut voir une différence. Donc si vous repérez bien où elles sont par rapport à des étoiles que vous connaissez, que vous repérez, vous voyez bien le déplacement, c'est assez net.
Tout à fait. Avant de passer aux constellations, on peut mentionner, puisqu'il est encore un petit peu le temps de la voir, pour peu que vous ayez des bonnes jumelles ou un petit télescope, la comète, alors j'ai oublié son nom précis, mais la comète Lemon, c'est 2025 à 6 peut-être, non je sais plus. En tout cas la comète Lemon qui est encore visible, mais alors il faut s'y prendre tôt dès la tombée de la nuit, puisqu'à 19h, 19h30 elle est passée sous l'horizon déjà. Là, on est du côté du Serpentaire, donc plein ouest. Et la comète Swan, qui est moins visible et en tout cas moins spectaculaire, elle est plus haute dans le ciel. On peut la voir un peu plus longtemps, mais pour avoir observé les deux, alors autant la comète Lemon, elle a une petite queue, voilà, elle a l'apparence attendue d'une comète. La comète Swan, par contre, elle c'est plus une boule un peu floue. Voilà, sa queue n'est pas visible. Est-ce que c'est parce qu'elle n'en a pas ou est-ce que c'est parce qu'en perspective elle est dans l'axe dans lequel on l'observe ?
Elle en a forcément une, ouais, mais après...
Voilà pour ces événements, ces objets transitoires que sont les comètes. Et alors parlons un petit peu des constellations. En ce moment, alors pour peu que vous ayez un relief au nord, la Grande Ourse vous est cachée, parce qu'elle rase l'horizon nord, suivie de près par Arcturus, dans le Bouvier aussi, qu'on peut apercevoir juste quand la nuit arrive. On peut voir Arcturus et puis elle se couche très vite. Et à l'opposé, par contre, c'est Capella qui se lève très tôt, qui est très brillante. Aldébaran, qui est pas très loin non plus. On a ce qu'on appelle, on vous parle souvent du triangle d'été. Je vais pas y revenir, si vite fait. Altaïr, Vega et Deneb. Mais voilà, qui est triangle d'été, comme son nom l'indique, vu ce mois de novembre qui se termine. Ça commence à être bien couché.
Bah, par contre, de l'autre côté, elle est quand même encore au coucher du soleil, vu qu'il fait nuit assez tôt. Elles sont quand même encore assez hautes dans le ciel. Hein.
À 18h, 19h. Temps, mais Deneb met encore un peu de temps à se coucher. Ouais, c'est vrai. Et à l'opposé, on a un autre astérisme, qui est le nom pour parler de forme d'étoile reconnaissable dans le ciel. On a l'astérisme du bouclier de l'hiver. Tu connais celui-là, Fred ?
Mais pas du tout, éclaire-moi, Axel.
Le bouclier de l'hiver, il faut attendre un petit peu pour le voir vraiment. Il faut attendre pas très tard hein, non plus, vers 10-11 heures, on peut apercevoir. Et en fait, on trace une sorte d'hexagone entre... on passe par Capella, par Castor et Pollux dans les Gémeaux, on descend sur Procyon, on remonte par Orion avec Rigel et Aldébaran, et ça nous fait... Voilà, une sorte de rond un peu cassé dans cette partie à l'est en ce moment, ouais, vers 23h, le temps que Procyon se lève, 23h minuit, pour observer ça.
Très belle partie du ciel hein,
ouais, voilà, en ce moment. Pas mal d'étoiles brillantes.
Et puis Jupiter.
Et j'oubliais Sirius aussi, bien sûr, là-dedans, l'étoile la plus brillante de notre ciel, j'allais dire français, mais non, terrestre en fait, mondial. Il n'y a pas d'étoile... plus brillante que Sirius, si on regarde sur une année, et c'est dans les deux hémisphères confondus. Canopus, qu'on ne voit pas dans l'hémisphère nord, qui s'en rapproche un petit peu. Mais...
La Vega, qui est quand même bien brillante, mais un peu moins.
Un peu moins. Ouais. Voilà, que dire de plus vers minuit, on a Cassiopée, qu'on appelle souvent le W de Cassiopée, qui est un peu un astérisme finalement, le W, une forme reconnaissable, sous forme de cette lettre W, mais en fait, en ce moment, en deuxième partie de nuit, milieu de nuit, c'est plutôt un M qu'on peut voir au nord, au-dessus de cette fameuse étoile polaire, l'étoile qui, depuis l'hémisphère nord, est par coïncidence dans l'axe de rotation de notre belle planète bleue.
On voit bien aussi Persée, qui est sous Cassiopée, et qui vraiment aussi est dans la Voie lactée.
Ouais,
on a quand même encore une belle Voie lactée. Quand même.
Ouais, on voit un peu l'autre côté de la Voie lactée. L'été, au sud, on a cette voie lactée qui sépare le scorpion et le sagittaire, qui remonte par l'aigle, tout ça. La voie lactée du sud. Alors, en ce moment, c'est plutôt au nord qu'il faut la chercher, ouais, dans Cassiopée, dans Persée. Un petit peu l'opposé de ce plan galactique qui nous est donné de voir depuis chez nous.
Et ben merci Axel. Donc on vous engage à regarder tout ça, prenez une carte du ciel tournante ou bien avec les moyens modernes, une petite application ou un logiciel pour vous guider si vous n'avez personne qui connaît le ciel autour de vous. Et partez à la découverte de ces astérisques dont tu dis, de ces étoiles et de tous les dessins qu'elles forment. C'est aussi le point d'entrée dans l'astronomie amateur en tout cas.
Oui, carrément. Et on peut terminer avec les pluies d'étoiles filantes du moment qu'on avait annoncé, je crois,
oui,
lors de la dernière
émission.
Oui, on
a parlé des Léonides.
Voilà, alors il y a les Léonides et les Taurides qui ont l'air de venir du taureau en ce moment. Alors, il y a le Tauride du Sud, je crois, pour être très précis. Mais en tout cas, la semaine dernière, j'ai pu voir des belles étoiles filantes et même avec la pleine lune, des beaux bolides, du coup, dont un qui s'est fragmenté un petit peu.
Chouette.
Un qui a laissé une traînée dans le ciel pendant peut-être 3-4 secondes. Voilà. Donc il y a des belles étoiles filantes qui sont possibles d'observer en ce moment. Et je crois qu'on avait parlé des Orionides qui sont dus au passage de la célèbre comète de Halley, qui, comme toutes les comètes, laisse derrière elle un champ de débris. Et si on a de la chance, la Terre vient balayer ce champ de débris laissé par les comètes. Là, en l'occurrence, pour les Orionides, c'est la comète de Halley, les fragments de la comète de Halley qui viennent illuminer nos nuits. Et voilà, nous permettre de rêver, de faire des vœux. C'est ça, parce que s'il y en a beaucoup,
c'est ça le plus important.
Préparez votre liste de vœux pour être prêt au cas où vous envoyez une.
Voilà. Et après, la liste au Père Noël.
Oui, c'est pour bientôt aussi.
Ok, eh ben, merci beaucoup pour tout ça. On va passer à la suite de l'émission. Et donc là, ce sera la chronique astrale. Donc je vais vous parler d'astronomie en rayon X et en rayon gamma. Donc si vous suivez un peu l'émission, j'ai fait avant l'été des émissions sur l'astronomie dans l'infrarouge et la radioastronomie, il me semble. J'ai fait l'astronomie ultraviolet. Et là, donc, on termine le spectre avec donc les rayons X et les rayons gamma, c'est-à-dire la partie la plus énergétique du spectre électromagnétique. Alors, je fais un tout petit rappel sur ce spectre. Ce que nous on appelle la lumière, en fait, ce sont certaines longueurs d'onde, de vibrations des photons qui sont reçus et qui vont du rouge au bleu. Mais en fait, ce spectre est beaucoup beaucoup plus large que juste ce que nous appelons le visible. Et nous avons donc du côté moins énergétique, c'est-à-dire en dessous du rouge, les infrarouges, puis les ondes radio. Et à l'inverse, au-dessus du bleu, nous avons les ultraviolets, puis les rayons X, puis les rayons gamma. Donc là, on va se concentrer sur cette partie-là du spectre. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur... Et je vais commencer par les rayons X, et puis je parlerai un petit peu, mais plus brièvement, des rayons gamma après. Donc les rayons X, ils sont principalement absorbés par l'atmosphère de la Terre. Donc on ne peut pas vraiment observer depuis le sol. Donc en fait, c'est de l'observation spatiale. C'est un rayonnement qui est, comme je l'ai dit, énergétique. Donc il faut imaginer, en fait, ces photons, ces particules de lumière qui sont dans ces longueurs d'onde-là, en fait, on pourrait dire, elles sont très agitées, elles vibrent très vite. Et donc, en fait, elles communiquent aussi beaucoup d'énergie à la matière qu'elle va rencontrer. Donc, on va s'intéresser aux phénomènes vraiment énergétiques de l'astrophysique. Donc voilà, on va pouvoir détailler un petit peu. Principalement, en tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les rayons X, ils sont émis par des gaz très chauds, voilà, qui sont dans l'espace. Quand on dit très chaud, ça peut être entre 10 ou 100 millions de degrés.
Ah oui, très chaud.
Kelvin. Oui. À cette échelle-là, que ce soit Kelvin ou Celsius, ça ne change plus grand-chose.
Oui.
Donc on est quand même dans de très très hautes températures, dans ce qu'on va appeler des plasmas, en fait. Des états où le gaz va être ionisé, dans des états de la matière qu'on ne rencontre pas, a priori, sur Terre. Alors, je vais faire une petite historique, d'abord, de cette astronomie en rayon X. La première détection, ça a été en 1948. L'équipe de Herbert Friedman, qui travaillait dans un labo de la Navy américaine. Donc, ils avaient embarqué, en fait, des compteurs Geiger dans un V2 qu'ils avaient pris aux Allemands.
Ah oui.
Et ils ont capté des rayons X qui étaient émis par la couronne solaire. Donc, ça a été un peu le point de départ de cette affaire. Mais le vrai point de départ, c'est 1962, avec une équipe du MIT, hein, Massachusetts Institute of Technology, qui avait envoyé une fusée donc au-dessus de l'atmosphère et qui avait détecté en fait une source dans la direction du centre galactique. Donc cette source, elle a été nommée Scorpius X1. C'était la première source de rayons X, bon, autre que le Soleil. Et donc il y a eu un prix Nobel quand même, hein, pour ça, Riccardo Giacconi, qui a eu le prix Nobel en 2002. Alors, ça prend toujours du temps, hein, les prix Nobel, hein, pour... mais qu'il a eu pour cette découverte. Alors quand même, cette source, elle est 10 000 fois plus brillante en rayon X qu'en visible. Donc c'est ça aussi qui est intéressant quand on change de longueur d'onde pour l'observation, c'est qu'on, nous, on a l'habitude, entre guillemets, du ciel dans le visible. Et d'un coup, on se rend compte que si on regarde dans une autre longueur d'onde, on a des objets qui sont très faibles dans le visible, mais qui en fait émettent énormément dans d'autres domaines du spectre. Et c'est le cas de cette source Scorpius X1. Donc l'énergie X de cette source, elle est plus de 100 000 fois plus grande que la puissance totale du Soleil, quand même.
Ah oui.
Donc c'est quand même assez puissant, quoi. Donc voilà, en gros, je voulais mentionner ces deux événements qui ont un
peu... c'est quoi? On sait ce que c'est aujourd'hui? C'est une galaxie,
Scorpius X1. Je ne sais pas.
C'est une émission d'une radio associative alien.
Je pense pas. Je pense que c'est probablement en fait un noyau de quelque chose qui orbite autour d'un trou noir ou un noyau actif de galaxie ou un truc dans le genre, mais je ne sais pas.
Pardon, je t'ai piégé.
Ouais, bien, mais je vois l'ambiance, ok, très bien. Donc, si on continue ensuite cette historique, là, on a toute une série de ballons, ballons sondes, de fusées, et donc surtout, en fait, hein, maintenant, deux satellites qui observent en X depuis l'espace. Alors, je mentionne les missions Swift, mission Chandra aussi, mais il y en a d'autres, quoi. Donc, voilà. En termes de détecteurs, c'est-à-dire comment on fait pour observer ces rayons X? On arrive encore à utiliser des capteurs CCD.
Ah oui.
Pour les X. La différence quand même, c'est que autant dans le visible, quand un photon visible arrive sur le détecteur, il va du coup interagir avec la matière du détecteur et puis arracher des électrons. Hein, c'est un peu, créer une circulation d'électrons en fait à l'intérieur du matériau. Et voilà, un photon visible va créer peut-être un électron, quelque chose. Bon. Alors qu'en rayon X, en fait, il va en créer peut-être 100 000. Donc on a quand même, c'est quand même un peu différent en termes de technologie. On utilise aussi des micro-calorimètres. C'est-à-dire on mesure, en fait, on va mesurer l'échauffement, quelque part, d'une matière suite à l'absorption d'un rayonnement énergétique. On utilise aussi les supraconducteurs. En tout cas, on n'utilise pas de télescope. On ne peut pas utiliser un télescope optique pour observer en rayon X. Ça ne fonctionne pas.
Ah ouais.
Donc, il y a des objets, des télescopes dédiés à ça, quoi. Et ce sera pareil pour les rayons gamma, voire encore pire, puisque là, on ne pourra même plus utiliser de CCD. Alors, en termes d'objets d'étude maintenant, qu'est-ce qu'on observe quand on observe en rayon X? Donc, comme je l'ai dit, on va avoir affaire vraiment à des phénomènes énergétiques. Donc, on va observer des étoiles à neutrons. On va observer des trous noirs. En fait, en réalité, on n'observe pas directement ces objets-là, en particulier les trous noirs, hein, puisque par définition, on ne peut pas les voir, puisqu'ils n'émettent pas de rayonnement. Mais par contre, autour de ces objets, il y a des disques d'accrétion, il y a de la matière qui tombe dedans, qui est aspirée par ces trous noirs.
Qui est accélérée.
Qui est accélérée, donc qui se met à tournoyer. Et bon, mais ça, c'est de la physique, c'est de l'électromagnétisme de base. Toute particule chargée qui a un mouvement circulaire, enfin qui est accélérée, qui a un mouvement circulaire, donc là, c'est le cas, va émettre un rayonnement. Donc en fait, on détecte beaucoup cette matière qui est absorbée par des objets compacts. Il y a aussi ce qu'on appelle les binaires X. Alors ce sont en gros, c'est un couple, hein. Un couple où on va avoir une étoile entre guillemets normale, une étoile voilà, qui émet sa lumière, mais qui a un compagnon en fait qui va être soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et ce, sur une courte période. Donc là encore, il y a des transferts de matière, en fait, depuis l'étoile jusqu'à son compagnon compact, qui font qu'on va détecter une forte émission en rayon X. Ça existe aussi autour d'une naine blanche, même si c'est moins énergétique. Donc on peut rappeler, une naine blanche, c'est, on va dire,
d'une étoile. Ouais.
C'est le reste d'une étoile moyenne, type Soleil, mais qui n'est pas suffisamment massive, en fait, pour créer un objet plus compact, type étoile à neutrons ou trou noir. On observe aussi les restes de supernova qui émettent encore en rayon X. Et puis, on observe un type d'étoiles dont j'avais envie de parler parce qu'elles sont intéressantes, c'est les étoiles Wolf-Rayet. Donc, ce sont des étoiles vraiment massives, c'est-à-dire bien au-delà de... Enfin, à partir de 10 masses solaires. Mais la plus grosse en fait 315. 300 okay. masses solaires. Ouais. Ça commence à devenir des monstres, quoi. Donc, il y en a à peu près 6000 dans notre galaxie. Et en fait, elles ont une phase de leur vie où elles se mettent en fait à générer un vent stellaire extrêmement fort, mais vraiment très 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 intense, même qui va carrément même masquer l'étoile en fait, tellement et elle expulse en fait sa matière dans un vent stellaire extrêmement intense jusqu'à laisser son cœur à nu et ensuite exploser en supernova.
Ah ouais.
Donc c'est des étoiles particulières et elles en fait, bah, elles émettent en X aussi. Et puis, on va terminer cette petite partie rayon X par ce qu'on va appeler le fond diffus X. Alors, j'ai posé quelques questions là-dessus à Jean-Baptiste avant l'émission, parce que j'avoue que ça ne me semble pas super clair l'origine de ce fond diffus. Pour ceux qui sont un peu coutumiers de l'émission ou qui connaissent, on a régulièrement parlé du fond diffus cosmologique, donc d'un rayonnement à 3 Kelvin, donc très froid. Qui baigne l'univers, mais qui lui est un résidu du Big Bang, hein, un résidu de la création de l'univers. Mais là, il semblerait que dans le domaine X, on ait quand même une espèce de rayonnement dans toutes les directions du ciel, donc qui correspondrait à quand même l'existence d'un gaz bon, très dilué, mais très chaud, et qui émettrait en rayon X. Alors, quelle est l'origine de ce gaz ? En tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas dans quelque chose de cosmologique, enfin, en rapport avec les origines de l'univers. C'est autre chose. Mais est-ce que c'est la superposition de toutes les sources qui émettent en rayon X ? Ou est-ce que, comme on le disait là, Jean-Baptiste, tu mentionnais le fait qu'il y avait du gaz qui pouvait circuler entre les amas de galaxies, et donc qui peut être chauffé justement par les éjections en fait, que certaines galaxies de l'amas vont émettre autour d'elles. À voir. En tout cas, on l'observe, ce fond diffus en rayon X.
Et si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur le fond diffus cosmologique, on en parlait dans la 79e émission.
Merci Axel. Voilà, Jean-Baptiste, tu as un petit commentaire à faire ou ça te semble...
Oui, non, ça me semble tout à fait correct. J'en sais pas vraiment plus
D'accord.
là-dessus, sur ce rayonnement.
Alors, on va continuer cette chronique avec l'astronomie gamma. Alors là, les rayons gamma, on est vraiment au bout du spectre énergétique. On est, c'est aussi ce qu'on connaît sur Terre comme la radioactivité gamma.
C'est ce que je veux dire, c'est ce qui tue en radioactivité.
Tout à fait.
C'est ce qu'il faut éviter. Alors, si en radioactivité, travailler à Tchernobyl.
C'est ça. Ouais. Mais il y a d'autres rayonnements. Il y a la radioactivité alpha, bêta.
Oui. Et la gamma, c'est la...
Et la gamma, en tout cas, c'est le rayonnement le plus énergétique. Ça, c'est sûr. Et c'est celui qui peut effectivement faire beaucoup de dégâts sur l'environnement, qui tue, quoi, tout simplement. Maintenant, là, on parle de sources astronomiques, donc qui sont très loin, qui émettent quelques photons gamma. C'est pas le ciel qui nous irradie. Mais c'est la même nature, effectivement.
Donc vous pouvez ranger vos chapeaux.
Après, la différence, c'est que là, on ne parle pas de radioactivité. C'est-à-dire, la radioactivité émet des rayons gamma.
Oui, là, c'est
autre chose. Et après, c'est un autre phénomène d'émission, pas dû à la radioactivité.
Tout à fait.
Donc, cette astronomie gamma, elle date pareil, hein, des années 60. Actuellement, on a détecté à peu près 3000 sources dans le ciel. Donc, ce sont des sources donc, très énergétiques. Le truc, c'est que les rayons gamma, ils ont un grand pouvoir de pénétration dans la matière. Alors on imagine là des photons qui sont vraiment très 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 excités et en fait ils rentrent dans la matière comme ils veulent.
Une longueur d'onde très très courte.
C'est ça, une grosse fréquence, une petite longueur d'onde.
Du coup qui peut s'immiscer, qui passe à travers un mur.
Qui passe à travers beaucoup de choses. Et en particulier à travers un miroir de télescope. Donc il est impossible d'observer des rayons gamma là encore avec des détecteurs habituels. Donc il y a des détecteurs spécifiques, on retrouve l'idée du calorimètre, hein, toujours de pouvoir mesurer une émission de chaleur due à un rayonnement énergétique qui arrive de l'espace. Alors ça, c'est quand même des trucs qui sont super pointus, parce que pour arriver à détecter l'augmentation de température, déjà, il faut que ce calorimètre il soit maintenu à des températures qui sont très très basses, qui sont proches, qui sont pas à zéro, mais qui sont très proches quand même du zéro absolu. Donc c'est tout un bazar, il faut l'isoler de toutes les pollutions qui sont autour, etc. Et arriver à détecter quelques photons qui viennent du ciel et à mesurer. Et le plus gros problème aussi de l'astronomie gamma, c'est de savoir exactement d'où viennent ces photons-là. Ouais. Parce qu'en fait, on va pas forcément détecter le rayon gamma lui-même, mais on va détecter l'effet de ce rayon gamma. Et donc, avoir une résolution angulaire, arriver à trouver vraiment, de savoir exactement d'où ça vient, c'est pas très simple. Donc on n'a pas une grande précision dans la mesure, en tout cas de l'origine du phénomène. Quoi. Donc il y a aussi des scintillateurs, donc, et c'est un peu le principe d'observer des cascades de particules, c'est-à-dire en gros le rayon gamma il arrive, il est très énergétique, il excite la matière et en fait la matière va se désexciter et en se désexcitant elle va émettre des particules qu'on va détecter. Donc c'est une sorte de détection un petit peu indirecte quand même. C'est vrai que l'astronomie gamma, c'est pas forcément le domaine le plus développé de l'astrophysique, même si on en fait beaucoup, enfin même si on en fait. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'observer des phénomènes qui sont très énergétiques, assez extrêmes, et donc forcément de venir aussi chercher des choses par rapport à la cosmologie, par rapport à tout ça, pour savoir les trous noirs. On observe ce genre de trucs, les états extrêmes de la matière, dans l'évolution stellaire aussi. Donc ça donne des informations intéressantes, mais c'est pas une astrophysique simple, quoi, en termes d'instrumentation. Quoi.
Et je pense au GRB, c'est gamma, ça aussi, les gamma ray burst.
Gamma ray burst, ouais. Les sursauts gamma.
Oui, il y a des sursauts gamma en français.
On va mentionner. On a fait une émission, j'ai fait une émission là-dessus.
Ah oui. Tu veux que je te dise laquelle c'était ?
Tu trouves ?
Oui, c'est eux qui peuvent avoir. Alors, je m'adresse à Jean-Baptiste, que tu me parlais l'autre fois. Tu étais en mission à l'OHP.
Observatoire de Haute-Provence.
Et qu'il y avait eu un. C'était un GRB qui avait eu lieu et qui, du coup, le télescope s'est d'un coup réquisitionné pour chercher une contrepartie dans le domaine du visible.
Oui, donc probablement un GRB. Comme tu l'as dit, Fred, l'astronomie gamma, c'est des phénomènes très, très énergétiques et l'univers ne peut pas produire une source si énergétique pendant tant de temps. Donc, en général, c'est des phénomènes très courts, transients. Et aussi le problème, comme tu l'as très bien mentionné, c'est qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient. Donc ça, par contre, c'est un côté de l'astronomie qui se développe de plus en plus, d'essayer de regarder, de suivre ces sources qui ont émis le gamma. Parce qu'une fois qu'on a émis les rayons gamma, cette source ne va plus avoir assez d'énergie pour continuer à émettre en gamma. Et petit à petit, progressivement, elle va descendre et émettre dans tout le reste du spectre, donc gamma, ensuite X, et ensuite X, UV, visible. Il y a un moment où ça va être dans le visible, et pour finir en radio. Et tout le jeu, pour bien caractériser ces sources, c'est d'essayer d'avoir la source dans tout le spectre, sur toute sa vague, donc, c'est-à-dire à tous ces moments d'émission, depuis gamma jusqu'à radio. Et donc, il y a un réseau d'alerte mondial, qui va être prêt à observer au moment où le télescope qui va capter cet événement va donner un signal. Et à ce moment-là, y a tous les télescopes qui sont en réseau qui vont essayer de suivre cette source.
Ouais, merci.
Et ça, on peut le capter depuis la Terre, les rayons gamma, ou c'est que spatial aussi comme le rayon X.
Le gamma, il pénètre la matière, donc on peut les détecter depuis la Terre, il me semble. Par contre, la difficulté, c'est que sur Terre, il faut isoler. En fait, je pense que là, ce qui observe vraiment du gamma maintenant, c'est dans l'espace. Parce que sur Terre, il y a quand même aussi pas mal de sources polluantes, parasites et c'est...
Ouais, en fait, l'atmosphère va pas mal jouer le rôle de scintillateur aussi. Et va faire des cascades de particules très énergétiques. Il y a certains télescopes qui vont, ou en tout cas certaines méthodes, qui vont essayer de reconstruire ces cascades en sens inverse pour justement essayer de voir d'où vient cette source.
Okay. C'est pas les télescopes Tcherenkov ou
quoi ? Voilà.
Ouais, c'est ça.
Voilà, des choses comme ça.
Ouais. Ouais, ouais.
C'était l'émission 61.
Merci.
Tu nous parlais de sursaut gamma.
Donc voilà, pour ces précisions. Alors pour la petite histoire quand même, je trouvais ça intéressant. La première détection gamma astronomique, ça s'est passé en juillet 1967. Donc il y avait deux satellites américains, satellites Vela, qui en fait étaient là pour contrôler l'application d'un traité qui avait été conclu entre les États-Unis et la Russie à l'époque, enfin l'URSS, pour ne pas faire d'essais atomiques à la surface de la Terre. Donc eux, ils avaient lancé des satellites pour surveiller en fait le rayonnement gamma qui pourrait être émis dans l'atmosphère pour surveiller que personne ne balance de bombes en fait. Mmh. Et donc en faisant ça, ils ont observé une source gamma, mais du coup cette fois provenant du ciel. Mmh. Alors on s'est rendu compte après, parce que sur le coup, ils ne savaient pas, mais que c'était un sursaut gamma en fait qu'ils avaient observé. Et en fait, ils ont porté ça à la connaissance des scientifiques civils qu'en 1973, donc 6 ans plus tard.
Ah oui.
On ne sait jamais, il fallait d'abord exploiter les données, on ne sait pas. Hein. Bon, toujours pareil avec les militaires, mais bon, passons. Donc voilà un peu pour cette petite anecdote. Et donc en termes d'objets, bon, ensuite ça s'est développé hein, comme le reste de l'astronomie. En termes d'objets observés, donc... Qu'est-ce qu'on voit en gamma ? Eh bien, on voit des supernovas, on voit les restes de supernovas, on voit des pulsars, on voit des trous noirs, on voit ces fameux sursauts gamma, effectivement, donc qui sont quand même assez étudiés. Hein. Il y a toute une communauté quand même qui travaille sur les sursauts gamma. Et puis, on voit ce qu'on appelle les noyaux actifs de galaxies. Donc ça, ce sont des galaxies, en fait, qui ont la particularité que leur cœur émet plus de lumière, entre guillemets, qu'une galaxie normale. Alors, au moins dans une longueur d'onde. C'est pas forcément en gamma, ça peut être en X, ça peut être... En tout cas, on a quelque chose qui se passe au cœur de la galaxie, où on voit ces galaxies qui émettent beaucoup plus de lumière que les autres. Donc on les appelle noyaux actifs de galaxies. A priori, l'idée, c'est qu'on a des trous noirs supermassifs qui sont au cœur de ces galaxies, et là encore, qui ont un disque d'accrétion, qui absorbent de la matière, et donc cette matière va émettre du rayonnement gamma lorsqu'elle tombe derrière l'horizon du trou noir. Voilà un peu pour ces histoires d'astronomie dans la partie la plus énergétique du spectre. Et ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Est-ce que... voilà. Eh bien, on va passer à la pause musicale. Et donc, cette semaine, c'est un morceau de Deep Purple qui s'appelle « Our Lady ». Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA. Alors on va attaquer la suite de cette émission et donc qui va être consacrée à la rubrique Nouvel Œil. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir Jean-Baptiste qui est astrophysicien.
Bonjour.
Donc il va venir nous, tu vas venir nous, tu viens nous parler, nous raconter un petit peu ton travail, parce que tu as quand même des petits résultats, on va pas spoiler, mais des choses intéressantes à nous dire. Mais on va d'abord commencer peut-être un peu par apprendre à te connaître et donc ton parcours, je dirais à la fois universitaire, comment ça peut aussi intéresser les gens de savoir comment on devient astrophysicien. Mais aussi, j'ai envie de te poser comme première question, c'est qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Qu'est-ce qui t'a conduit à l'astronomie? Est-ce que dans ton enfance, dans ton adolescence, quel était ton rapport au ciel? Comment t'es arrivé, en fait, à choisir cette voie-là?
C'est peut-être une question classique et aussi une réponse classique. Simplement, en regardant le ciel, en étant émerveillé des choses. Je n'étais pas du tout dans une famille qui regardait ça ou avec cette culture. Et j'ai eu un professeur, c'était CM1, qui m'a un jour emmené voir le ciel avec son télescope. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et plus que trouver fabuleux, ce qui me questionnait, c'est de me dire mais comment ça marche quoi là-haut. Mmh. Et voilà. Et depuis là, après, j'ai demandé à mes parents de m'abonner à des magazines et puis je me suis fait ma culture. Et cette petite idée qui était un peu folle à l'époque quand j'avais 10 ans en disant je serai astrophysicien, je l'ai poursuivi et puis voilà.
Tu t'es équipé aussi à l'époque?
Pas forcément, non, j'avais pas, je trouvais ça trop compliqué, je disais mais c'est pas possible, À l'adolescence, oui. J'avais acheté mes parents m'ont offert un petit Newton.
Un 115-900 ou...
Mais j'ai jamais vraiment été capable
de l'utiliser.
Ah ouais. Voilà, vraiment d'être très aguerri avec ça. Il a fallu attendre longtemps pour que vraiment je me dise, bon allez, il y a plein de gens qui le font, je suis astrophysicien, allez, faisons-le. Et d'ailleurs, c'est quand même quelque chose de peut-être marrant, y a beaucoup d'astrophysiciens qui savent pas du tout observer, qui connaissent pas le ciel.
C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que j'ai pu constater. Je sais pas quel pourcentage, mais il y a une bonne partie d'astrophysiciens qui ne sont pas du tout astronomes amateurs et qui viennent par la science en fait.
C'est assez gros et je pense de plus en plus, parce que de plus en plus, on a besoin d'être très performant en outils informatiques, en sciences, en technique. Et je m'imagine quand même que par le passé, en tout cas tous les astronomes plus âgés ou astrophysiciens plus âgés que je connais, ont tous un regard quand même beaucoup plus observateur, on va dire.
Okay. Tu l'as toujours ce télescope de ton adolescence?
Oui, je l'ai toujours. Ah oui, je, je le garderai.
Trop bien.
Ok, donc professeur qui te met le pied à l'étrier. Donc ensuite, j'imagine, tu as fait un baccalauréat scientifique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Et puis ensuite, un parcours finalement classique pour un astrophysicien. Il y a d'autres voies, mais moi, j'ai fait une licence de physique, puis un master de physique avec une spécialité astrophysique. Et puis ensuite, un doctorat en astrophysique.
Donc tu as fait une thèse?
Voilà, une thèse.
Donc là, ça nous amène un peu au sujet aussi de ta visite. Cette thèse, tu l'as faite sur quoi?
En avance de la thèse, quand j'étais en master, il faut faire des stages ou des choses comme ça. Et je m'étais plutôt orienté sur les binaires, les étoiles doubles. Et par la technique, en fait, des binaires, j'ai découvert simplement par la programmation. Je me suis finalement orienté vers les galaxies et vers les galaxies du groupe local. En particulier les galaxies naines, donc des petites galaxies qu'on appelle des galaxies naines satellites ou sphéroïdales. Donc, c'est des petites galaxies qui naviguent autour de la galaxie centrale d'Andromède.
Donc on rappelle que les galaxies sont ces gros amas d'étoiles en fait qui structurent un peu l'univers, la nôtre étant la Voie lactée, mais qui contient autour de 200 000 étoiles.
200 milliards d'étoiles. Ouais.
C'est 200 milliards.
Mmh. 200 milliards, oui.
Pardon. Tout à fait.
C'est pas le bas de la fourchette, non.
Et ouais. Qu'effectivement, dans l'univers, ces galaxies se regroupent en amas. Et nous, on fait partie de ce qu'on appelle le groupe local, l'amas de la Vierge, qui est autour de nous.
L'amas de la Vierge est assez loin par rapport à Andromède. On peut dire, si tu veux mettre de la Vierge dedans, on fait partie du super amas de la Vierge.
Du super amas de la Vierge.
Donc il y a l'amas de la Vierge qui a une soixantaine de millions d'années-lumière, à peu près, et qui est un espèce d'attracteur pour tout un tas d'autres groupes d'étoiles, tout un tas d'autres galaxies, et qui forme une structure locale qu'on va appeler un super amas. Et nous, on est dans ce super amas, mais on n'est pas dans l'amas de la Vierge. Voilà.
Et la galaxie d'Andromède fait partie de ce super amas ?
Oui, tout comme la Voie lactée, tout comme notre galaxie. Comme tu l'as bien dit, on est dans le groupe local. Et notre galaxie, cette Voie lactée, entre 200 et 500 milliards d'étoiles, avec Andromède à côté, qui est aussi une assez grosse galaxie quand même, environ 500 000 milliards d'étoiles.
Oui, une un peu plus grosse que la nôtre.
Et voilà. Disons que les fourchettes hautes de la Voie lactée... recouvre les fourchettes basses d'Andromède. Ouais. Et donc ces deux grosses galaxies dominent ce que tu as appelé le groupe local, ce qu'on appelle le groupe local. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ces deux galaxies, il y a tout un tas d'autres objets. Donc des galaxies naines comme je l'ai mentionné. Donc quand on dit naine, faut pas s'imaginer trois étoiles. Hein. Naine, c'est quand même, on va dire, un milliard d'étoiles. Voilà, c'est une petite... c'est une galaxie naine. Des amas globulaires qui sont moins gros, voilà, et puis du gaz, de la poussière.
Le groupe local en de grandeur, en diamètre,
c'est à peu près 2 millions et demi. Il y a 2 millions et demi d'années-lumière pour atteindre Andromède. Ouais. Et donc si on met une sphère autour, on va dire comme ça, allez, 4 millions, 4-5 millions, on dit que c'est un et demi mégaparsec, donc 4 ou 5 millions d'années-lumière.
Ah oui. Donc les galaxies, certaines des galaxies qu'on peut observer dans un télescope amateur et même, on va dire, modeste, comme je pense à M80, M82, qui sont dans la Grande Ourse, ou M51 aussi dans la Grande Ourse, une petite dernière, celle qui illustrera le podcast sur le site de Radio Diwa pour cette émission, c'est la galaxie du Sculpteur. Tout ça, c'est dans les 10-15 millions d'années-lumière. Ça, on n'est plus dans le groupe local.
Là, on est dans la banlieue éloignée. Ouais. Okay. Ouais. Mais on est vraiment dans ce groupe dont on parlait il y a une seconde, là, dans cette structure qu'on va appeler Superama de la Vierge.
Ce Superama. Donc ça, c'est un peu ton domaine, en fait. C'est ton domaine de recherche, quoi. Alors, juste pour continuer et pour aussi peut-être que donner aux auditeurs et auditrices une idée de ce que c'est actuellement la recherche ou un parcours pour essayer d'y accéder, parce que c'est pas simple. Donc, tu as fait ta thèse. Donc, une fois que tu as ta thèse, tu es en droit de postuler pour des postes, que ce soit dans des laboratoires ou dans des universités.
Oui, en théorie. Oui.
En théorie. Et en réalité, on fait ce qu'on appelle des post-docs, c'est-à-dire qu'on va aller dans un laboratoire pour travailler, pour continuer son travail, en fait, mais en étant quelque part intérimaire de l'astrophysique.
Oui, c'est ça. Des post-docs, on peut avoir l'habitude de dire c'est des postes de chercheurs CDD. Donc, qui sont prédéfinis à l'avance, c'est-à-dire qu'on va soit en personne demander un financement à un organisme, donc soit soit un labo, soit en général c'est plutôt on va demander un pays ou à l'Europe ou de temps en temps des chercheurs déjà en place ont eu eux de leur côté un financement pour embaucher un postdoc. Donc c'est à chaque fois des durées limitées, des durées déterminées. La moyenne, je dirais que c'est deux ans. Il peut y avoir des CDD, des post-docs très courts, des missions de 6 mois. Mais en général, c'est 2 ans, 3, voilà.
Donc tu as fait quelques post-docs.
Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Après la thèse, je suis parti dans un laboratoire qui s'appelle le Centre Copernic, qui est à Varsovie, du coup, tout son nom. Voilà, j'ai passé un peu de temps là et ensuite je suis revenu en France à l'Observatoire de Besançon. Donc là où j'ai vraiment plutôt travaillé sur la dynamique galactique. Donc à Varsovie, j'avais gardé un peu ma spécialité de ces galaxies naines, de ces petites galaxies satellites qui tournent autour d'Andromède notamment. À Besançon, j'ai réduit un peu l'échelle. Donc je me suis concentré sur la Voie lactée, donc sur notre galaxie, et sur la façon dont les étoiles bougeaient dans cette galaxie. Donc est-ce qu'elles s'agitaient beaucoup au cours de leur vie dans la Voie lactée. Et ça permet de déterminer la masse. Donc quand on regarde à quel point les étoiles, on va appeler ça la dynamique, leur dynamique, donc quand on combine la position et leur vitesse, surtout leur dispersion de vitesse, ce que j'ai appelé en premier lieu l'agitation, ça nous permet de déduire la masse d'une galaxie, ou en tout cas de l'endroit où l'étoile est. Et donc cette masse, vous me voyez peut-être venir, il en manque.
La masse manquante, la fameuse masse manquante, donc qui manquerait, on dirait à peu près 90% de la masse dans les calculs.
Voilà.
Donc ce qui n'est pas rien, on a plein de fois l'occasion d'en parler dans cette émission. Et effectivement, ça amène à ce type de thématique.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et à du coup définir une densité locale ou plus globale de la matière noire. Et ça nous amène du coup à créer des modèles de la Voie lactée. Donc un modèle, c'est une galaxie fictive. Donc on essaye de reproduire la même...
Une simulation.
Voilà, la même sorte de choses sur une simulation. Mmh. Et d'essayer de paramétrer au mieux ce modèle pour qu'il ressemble le plus possible à ce qu'on voit. Mmh. Et plus ça y ressemble, plus on se dit on a la bonne physique qui est derrière.
On a mis les bonnes données.
Voilà. Ouais.
Okay.
Et donc, après ça, pour finir...
Oui, c'est ça ce que j'allais te demander, du coup, ensuite, après tes post-docs.
Voilà, là, j'ai encore fait... je suis parti cette fois à Berlin pendant un petit moment, pendant 3 ans, où là, je suis retourné à mon échelle favorite. Donc, tout ça est lié hein, en termes de dynamique, puisque j'étudiais les galaxies satellites, donc leur mouvement, on va dire, dans le groupe local. J'étudie le mouvement des étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Et là-bas, j'ai essayé de rassembler tout ça, c'est-à-dire de connecter la cosmologie et la dynamique du groupe local. Donc la cosmologie, c'est l'explication de comment l'univers s'est créé et comment l'univers a évolué. Donc j'étais en collaboration avec une équipe qui faisait des simulations cosmologiques, donc qui mettait tous les ingrédients qu'on connaît de la physique, les équations, qui partaient de conditions initiales et qui après laissaient tourner des très grosses simulations pour arriver à un univers tout à fait simulé, mais statistiquement qui pourrait correspondre à un univers réel de nos jours. Et ce que je m'amusais à faire, du coup, mon travail, c'était de comparer la réalité, ce qu'on avait en vrai, avec ces simulations cosmologiques. Mmh. Voilà. Et donc, après cette session de post-doc, je suis venu travailler pas loin d'ici, à Rosan, dans les Baronnies, à côté de Rosan.
À une heure, à peine plus d'une heure.
Ouais, à peine plus d'une heure d'ici. D'ici.
Pour nos auditeurs qui sont à Poyol, c'est même encore un peu plus près.
Voilà, donc l'Observatoire des Baronnies Provençales. Donc c'est un endroit assez atypique dans l'univers de l'astronomie, on va dire. C'est un endroit où à la fois on va faire pas mal de médiation avec le public, toutes sortes de médiation, et en même temps on va y faire aussi de la recherche.
Alors, donc on va quand même spécifier que c'est un observatoire privé.
Donc voilà, c'est atypique dans ce sens-là surtout, c'est que c'est un observatoire privé, donc qui va fonctionner, pouvoir allouer un petit peu de temps de recherche à des chercheurs, sous réserve d'avoir suffisamment de financement qui nous viennent de différentes manières, mais principalement de la médiation.
De l'accueil du public
Voilà.
De la pédagogie. Et du coup, vous êtes là-bas 3-4 chercheurs, je crois.
Donc, on est 3 astrophysiciens. Ouais. Donc, moi, je vous ai déjà raconté mes domaines de recherche. Et mes collègues sont sur des échelles plus petites, mais tout autant intéressantes. Donc, ils sont sur les domaines des exoplanètes ou des étoiles binaires. Justement, j'en parlais. J'ai commencé ma...
La porte d'entrée.
J'ai commencé ma vie dans la recherche avec les binaires. Et c'est là où on fait le lien. Et l'intérêt avec ces thématiques, c'est qu'on peut vraiment faire de la recherche, impliquer le public directement dans nos recherches. Donc, on peut observer de manière professionnelle, c'est-à-dire faire des observations qui vont vraiment directement servir à la science, et tout en impliquant, en emmenant le public dans nos recherches. Donc, ils participent vraiment à l'élaboration de la recherche.
Ils voient vraiment dans le sujet comment la recherche fonctionne.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, ils sont avec nous.
Quelques heures au moins, quelques jours parfois. Voilà. Parce qu'il y a différentes formules qui sont possibles à l'Observatoire des Baronnies. Et notamment des formations sur une semaine, sur plein de sujets. Alors il y en a des très générales qui vont aborder un peu tous les sujets. Et puis d'autres beaucoup plus spécifiques, comme sur la spectrométrie, peut-être sur les exoplanètes. Et bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine, une nouvelle formation que tu vas un peu mener, peu la figure de proue de cette formation dédiée aux galaxies.
Que j'ai mis en place une formation sur un peu plus la galaxie et la cosmologie de manière générale, donc d'avoir une porte d'entrée, pas forcément pour les gens tout à fait dedans, hein, pas pour les professionnels, mais pour les gens qui juste trouvent ça beau et ont envie d'en savoir plus. On envie, comme moi quand j'étais jeune, de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Et je pense que j'ai mis au point cette semaine dans le sens qu'est-ce que moi j'aurais voulu, j'aurais voulu connaître à ce moment-là. Donc on parle de semaine de formation, comme tu l'as dit, mais il faut bien avoir à l'esprit que c'est pour tout niveau. Donc on fait des semaines plus spécifiques pour les gens qui sont avancés. On fait des semaines photométrie, spectroscopie, pour des gens qui vraiment ont déjà les instruments et qui sont déjà dedans. Mais on fait aussi des semaines pour des gens qui sont simplement curieux et qui ont envie de passer du bon temps.
Oui, c'est ce que j'ai fait il y a maintenant un peu plus d'un mois, où on était quatre. Et moi, évidemment, vous me connaissez, je connais un petit peu ces sujets, mais les trois autres ne connaissaient rien en arrivant le lundi matin, enfin le dimanche soir, et on savait beaucoup plus en repartant au bout d'une semaine. Ouais.
Donc ça c'est les sessions formation où il faut investir une semaine de son temps pour dire on est vraiment. Mais on a beaucoup de gens qui viennent à la demi-journée nuit. On a une formule de base qui s'appelle nuit étoilée où les gens viennent à 15h, on attaque les activités avec une petite formation sur le tas de qu'est-ce qu'on peut voir sur le ciel, des observations du soleil. Et puis on prépare surtout, on se prépare à ce qu'on va faire la nuit. Et puis on dîne ensemble et ensuite on va observer avec le public de 9h, de 21h à minuit, 1h, 2h du matin. Et le public peut ensuite dormir sur place, avoir le petit déjeuner le lendemain matin et repartir.
Ça, c'est quand même une chouette proposition de la part de l'OBP d'ouvrir à la fois à des gens qui sont novices et puis à d'autres qui sont un peu plus avancés dans le sujet. Ça, c'est pas toujours qu'on a cette variété d'offres, en fait. Très souvent, il y a un côté très... on fait la nuit grand public et puis ça s'arrête là. Et c'est rare d'avoir des offres un peu plus avancées.
Qui vont un peu plus loin.
Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Après, en termes de matériel, de ce que j'ai entendu dire, vous avez quand même accès à de sacrés télescopes là-bas.
Oui, c'est ça. On a notre télescope phare.
L'instrument principal.
L'instrument principal, avec une belle coupole. C'est en général, c'est là qu'on passe cette formule de nuit étoilée. C'est un télescope de 800. donc 800 mm, et on va s'amuser toute la nuit avec ce télescope à observer des belles cibles. Mais voilà, pour par exemple, ça me fait l'occasion de parler d'une seconde formule, s'il y a des gens qui veulent rester, bah, pas une semaine, mais pas juste une demi-journée, ils ont l'occasion de... On a une formule de week-end étoilé où les gens peuvent rester deux nuits. Ah oui. Ils auront cette première après-midi et nuit dont je vous ai déjà parlé. Et le lendemain, on va leur mettre le pied à l'étrier. Et c'est eux qui vont, au fur et à mesure de la journée, prendre en main un télescope. Donc, en général, un télescope tout à fait respectable pour un amateur, un 20 cm. Et petit à petit, connaître toutes les techniques pour faire leur propre nuit d'observation. Et au cours de la deuxième nuit, ils vont pouvoir s'amuser eux-mêmes, bien sûr, avec notre aide en permanence.
Ok.
Et est-ce qu'il y a eu de ton côté une sorte de déconnexion avec le grand public, avec la majorité de la population pendant tes années de recherche pure, de post-doc, qui t'ont amené à jouer un peu sur un pied dans la recherche et un pied dans la vulgarisation?
Peut arriver, oui, tout à fait. T'as raison de soulever ça, mais je pense que quand on est effectivement chercheur, on va être, surtout si on est chercheur à plein temps, il y a d'autres formules, on peut enseigner aussi peu ou avoir des tâches de service, mais si on est chercheur à plein temps, on peut avoir un biais de s'enfermer dans sa tour d'argent et de faire ses calculs tout seul, et on a l'image du vieux professeur ermite. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui passe un peu de mode. De plus en plus de mes collègues, donc une génération un peu plus jeune, ont vraiment envie de faire l'effort d'aller vers le public. Ah ouais. Mais voilà, moi c'est sûr que j'avais beaucoup moins de contacts que j'en ai maintenant. J'ai des contacts quasi quotidiens maintenant, où je partage de manière quotidienne avec le public. À l'époque, c'était plus une conférence grand public tous les mois, quoi, on va dire. D'accord. Voilà, c'était vraiment j'ai dit conférence de manière globale, ou une visite de classe ou quelque chose comme ça, mais c'était une fois par mois, et parce que je le voulais vraiment.
Oui, c'était pas...
C'est quelque chose de bénévole à côté.
Ouais.
Mais par contre, de manière, pas déontologique, mais philosophique, moi je trouve que c'est un rôle que n'importe quel chercheur devrait avoir envie de porter, la transmission.
Ouais.
Puisque là, je suis dans un observatoire privé, et il se trouve que c'est l'observatoire privé qui fait de la vulgarisation. Alors qu'un observatoire public, c'est le public qui paye.
Qui paye,
voilà. Et donc, ça devrait être un rôle vraiment prépondérant.
Ouais.
Si ce n'est prépondérant, en tout cas, tous les chercheurs devraient être vraiment volontaires à partager le sujet de leur recherche.
Alors, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet, maintenant qu'on voit un petit peu qui tu es, Jean-Baptiste?
Oui.
Puisque, comme je disais, moi j'ai passé une semaine à l'OBP il y a un peu plus d'un mois, sur cette semaine de formation généraliste, j'ai envie de dire.
Mmh.
Et tu es intervenu, je crois, deux fois pendant cette semaine. Alors, une fois pour nous parler d'évolution stellaire, mais c'était très bien, mais c'est pas là que je me suis dit « il faut que je l'invite dans l'émission L'Étoile Polaire ». C'était plutôt sur ta deuxième intervention où tu parlais de tes propres recherches concernant le rapprochement, on va dire, de notre galaxie, la Voie lactée, avec la voisine Andromède, et en utilisant les données du satellite Gaïa, dont on a parlé quelques fois dans l'émission. Je crois que Pierrick en a parlé plusieurs fois, notamment dans la 17e émission, ça remonte un peu, mais depuis, on en a reparlé, puisque c'est un... Tu pourras le décrire un peu plus, parce que je crois que tu l'as utilisé, tu as utilisé ces données en tout cas, un télescope satellite qui pouvait regarder des millions d'étoiles en même temps.
Ou même encore plus.
Même encore plus. Et pour définir leur mouvement propre. Et c'est une mission qui est maintenant terminée, mais le temps que les données soient traitées et exploitables, il y en a encore pour quelques années, je crois pour 2030, la dernière...
Au moins.
La dernière fournée de données du satellite Gaïa. Donc je te laisse parler.
Oui, sur le satellite Gaïa, j'ai vraiment eu les deux pieds dedans, parce que lors de mon post-doctorat à Besançon, il était financé par le CTES, donc un des organismes, le Centre national
d'études spatiales,
un des organismes qui a participé vraiment à la construction, au financement et au lancement du satellite Gaïa. Le satellite Gaïa, comme tu l'as dit, c'est un télescope qui a été envoyé à un endroit et dont le but était avant tout d'observer la position.
Oui, des cartographier, objets,
faire un catalogue d'étoiles.
Voilà, donc on appelle ça de l'astrométrie. C'est un satellite vraiment qui regardait telle étoile, elle a telle position, telle autre étoile, elle a telle position. Et il était dédié, en tout cas dans ses projets scientifiques ou dans ses buts de science, avant tout de cartographier la Voie lactée. Et là-dedans, il a cartographié plus d'un milliard d'étoiles. Donc tout à l'heure, on parlait 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Donc là, on a à plus d'un milliard, un milliard trois. On a quelque chose qui est significatif quand même au niveau statistique, c'est-à-dire qu'on arrive au pourcent d'étoiles cartographiées, donc c'est-à-dire où on a la position. Ce satellite a observé, donc il avait déjà sa mission d'observation longtemps connue à l'avance. Hein. Il a été mis et ensuite il tournait sur son axe. Et dû à la rotation de la Terre autour du Soleil, il a cartographié toute la voûte céleste. Il cartographiait toute la voûte céleste en quelques semaines. Il cartographiait très bien la position. Et comme il cartographiait très bien la position, plusieurs fois par an, de la même étoile, on a même pu avoir les vitesses transverses. Donc là, je lance le premier mot, donc la vitesse transverse, c'est-à-dire sur la voûte céleste. Pas la vitesse, la vitesse radiale, voilà, vers nous, donc entre l'œil et l'objet, mais la vitesse sur le ciel. Donc il a pu cartographier très précisément ces étoiles de la Voie lactée. Et après avoir fait ce post-doc à Besançon, où je m'en suis servi beaucoup pour la Voie lactée, je me suis dit, mais est-ce que Gaïa n'aurait pas pris aussi dans ses caméras la position des étoiles de M31? Donc il n'était pas du tout, ce n'était pas son but scientifique. La galaxie d'Andromède, pardon. Et donc ce n'était pas du tout son but scientifique. Et d'ailleurs, sa précision n'est pas suffisante pour regarder bouger les étoiles de M31. Il faut voir qu'il a une très très grande précision, c'est-à-dire quand il regarde un objet et puis quelques semaines plus tard, il regarde le même. La précision qu'il a en termes de déplacement sur le ciel est l'équivalent de regarder la différence de position d'une pièce d'un euro posée sur la Lune. D'accord ? Mais même ça, c'est trop grand pour voir les étoiles bouger dans M31. Mais par contre, je me suis dit, si on a suffisamment d'étoiles observées dans M31, et même si cette précision est très mauvaise, statistiquement, je vais pouvoir essayer de voir un mouvement global de cette galaxie, donc Andromède M31, sur le ciel. Même si on n'atteint pas la précision, le fait que j'ai plusieurs centaines d'étoiles qui vont bouger du même côté, je vais pouvoir m'affranchir d'avoir la bonne précision pour avoir ce mouvement transverse.
Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui était un peu dans le commun des esprits, et que vous avez peut-être entendu dans une soirée grand public d'astronomie ou ailleurs, c'est que la galaxie d'Andromède se rapproche de la nôtre, enfin nos deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre. Ça, ce mouvement radial, donc, il était connu. Toi, tu t'es demandé si elle avait aussi un mouvement transverse. Voilà. Latéral, on pourrait dire.
Ce qu'on s'imagine mal dans le ciel, alors qu'au final c'est évident, mais on a une projection sur le ciel, on regarde en 2D. Ouais. Quand on lève la tête, c'est très joli, mais on n'a pas du tout d'effet de profondeur déjà d'une, et on n'a aussi pas d'informations sur la vitesse des choses qui bougent de manière perpendiculaire à notre ligne de visée ou sur le ciel. De ce fait, la vitesse de M31 était très mal connue ou pas du tout caractérisée, ou caractérisée avec des très grandes barres d'erreur, cette vitesse transverse. Et les seules tentatives qui avaient été faites par des collègues américains avaient été faites grâce au télescope Hubble. Le télescope Hubble, le télescope spatial Hubble, avait des champs très très petits. Donc ils ont essayé de faire l'équivalent de ce que j'ai fait avec le satellite Gaïa, mais par contre, le satellite Hubble avait un très petit champ. Donc ils ont pointé ce très petit champ sur différents endroits de Andromède et ils ont regardé comme ça pendant plusieurs années. Et ils ont essayé d'avoir le mouvement transverse. Est-ce par défaut de statistiques ou par une mauvaise modélisation, comme ils avaient des très petits champs, ils étaient obligés de modéliser le mouvement de rotation de la galaxie M31 de façon très précise, ce qui est très difficile à faire. Il n'en reste pas moins qu'ils ont trouvé un mouvement qui était compatible avec une vitesse égale à zéro, une vitesse sur le ciel égale à zéro. Comme on connaît très bien la vitesse sur la ligne de visée, la vitesse radiale, qui est, elle, assez élevée, qui est de 100 km par seconde, et qui trouvait une vitesse compatible avec zéro sur le ciel, donc ils ont avancé l'argument que les deux galaxies allaient fusionner à l'échelle de 3 milliards d'années. Il se trouve que les données que j'ai pu collecter, les données que j'ai pu collecter qui m'ont amené à décrire cette vitesse transverse sur le ciel indiquent une vitesse pas compatible avec zéro et plutôt de l'ordre de 80 km par seconde. Donc on aurait une vitesse de la galaxie d'Andromède qui viendrait vers nous à 100 km par seconde, mais qui dans le même temps se déplace sur le ciel à 80 km par seconde. Résultat, en loupe la cible.
Résultat, pas de collision.
En tout cas, pas dans 3 milliards d'années. Il se trouve que si on est vraiment un groupe, donc c'est-à-dire quand on appelle groupe, en général on considère qu'on est lié de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on est deux grosses masses qui, dans les environs, on se sent. D'accord ? Simplement, on sent la gravité de l'autre. Donc même si les deux galaxies vont se croiser, même si elles ne se rentrent pas dedans, elles vont se sentir plus fortement. Et il va y avoir probablement une danse. Elles vont se tourner autour pendant plusieurs milliards d'années avant, effectivement, un jour de fusionner. Pas à l'échelle de 3 milliards d'années, plutôt à l'échelle de 30 milliards d'années.
On avait déjà eu l'occasion de mentionner ces images qu'on peut trouver. Hein, ce sont des vues d'artistes. Hein, mais effectivement, donc, là, c'est quand même assez... avec Léopard, c'est nouveau ce que tu nous racontes. Là. C'est vraiment un travail original de recherche, puisqu'on était plutôt dans cette idée que, comme tu le disais, la galaxie d'Andromède va rentrer en collision avec la nôtre d'ici 3 milliards d'années. Et vous avez peut-être pu voir ces images où on imagine le ciel dans 2-3 milliards d'années avec une galaxie d'Andromède qui prend la moitié du ciel en taille. Donc c'est fascinant, c'est très beau, ça donne envie que ça se passe comme ça. Et là, en fait, tu nous dis, maintenant, si on y regarde d'un peu plus près, a priori, ce n'est pas ce qui va se passer. Oui, il y a un balai gravitationnel entre ces deux galaxies, mais ça ne va pas être aussi simple que d'une fusion directe. Quoi. Donc ça, c'est intéressant. Merci de nous communiquer quand même ça, parce que c'est une nouveauté.
Merci. Moi, ça fait 5 ans que je dis à mon public... que la galaxie d'Andromède nous rentre dedans, j'ai dû tous les rappeler. Hein. Faut leur dire, moi, je me suis trompé. Enfin, je ne savais pas. Maintenant, je sais, je vous explique.
Il faut quand même être au courant que c'est des données qui ont encore des grandes marges d'erreur.
Oui, parce que comme tu disais, avec les données du satellite Gaïa, qui n'étaient pas prévues pour ça...
Voilà, on n'atteint pas la précision requise sur une étoile. Ouais. C'est encore dépendant. Par contre, l'avantage, le gros avantage qu'on a avec ce satellite comparé avec d'autres... comparé à d'autres techniques, comme avec le satellite Hubble, c'est qu'on a toute la galaxie. C'est qu'on a des étoiles sur tout Andromède. Ça nous permet un peu de contrebalancer les erreurs. C'est-à-dire, si on a un groupe d'étoiles qui est mal mesuré sur le côté droit de la galaxie, elles vont se compenser avec les 10 étoiles qui sont aussi mal mesurées sur le côté gauche. On n'est pas dépendant de la modélisation. On n'est pas si dépendant de la modélisation. Et comme tu l'as précisé, c'est que les données Gaïa, pour l'instant, le satellite a fini sa mission. Il a observé tout le ciel de 2015 à 2025. Mais ouais. on n'a pas les données.
Voilà, c'est la question que j'allais amener. Voilà, ouais, est-ce qu'avec les futures données qui vont arriver dans les quelques années à venir, tu envisages de reprendre tes calculs et affiner un peu ton,
voilà, c'est ça,
ton
c'est
modèle
que, moi ou des collègues, s'ils le font avant moi, quand il y aura des prochains catalogues de données Gaïa qui vont être publiés, là pour l'instant, il y a à peine un peu plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi de données qui sont publiées. Ce pays a déjà observé 10 ans, et il n'y a que 2 ans et demi de données publiées. Mmh. C'est-à-dire qu'entre la récolte de données et la publication des catalogues, il y a énormément de chercheurs qui vont faire un très gros travail de traitement de ces données-là. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Les chercheurs qui font ça sont vraiment à noter,
à féliciter,
parce qu'ils font un très gros travail qui finalement sert à toute la communauté. Mmh. Et c'est un travail harassant. À chaque fois, on peut être un peu, on peut être dubitatif sur le fait, tiens, pourquoi ça prend autant de temps. Mais c'est un travail, un très long travail. Et le prochain catalogue, donc le quatrième catalogue, est prévu pour 2026, probablement décembre 2026. On s'attend tous à ce qu'il soit peut-être encore reporté, j'espère pas, mais ça sera que le quatrième. On va en attendre encore un final, un cinquième. Ah oui. Donc on peut s'attendre à ce que cette donnée sur la vitesse transverse d'Andromède va s'affiner grâce à la meilleure précision des données, des prochaines données.
Ça pose aussi la question centrale en astrophysique, en sciences en général, mais beaucoup en astrophysique, du traitement de données, qui est une part énorme du travail.
Oui.
On va devoir malheureusement bientôt conclure cette émission à cause du temps imparti à l'antenne.
J'ai une dernière question.
Vas-y.
Pour ma part. Du coup, est-ce que tu as une idée, un ordre de grandeur, de la distance minimale que va atteindre, qui va séparer Andromède et la Voie lactée dans ces 3 milliards d'années qui étaient annoncées?
Oui. Du coup, il y a pas mal d'équipes qui se sont emparées de ces résultats et qui ont essayé de les refaire et qui ont fait des projections. On a des grandes incertitudes, donc on a toute une série d'orbites qui peuvent se mettre en place, d'orbites de futur du groupe local. Une distance assez commune, minimale, est de l'ordre de 900 000 années-lumière. D'accord. Donc là, en ce moment, on est à 2005.
Oui.
La distance minimale dans ces fameux 3-4 milliards d'années serait de l'ordre de 900 000 années-lumière. Bien sûr, avec une très grande marge d'erreur. Mais voilà, moi, où je voudrais insister, c'est-à-dire que dans ce groupe local, on fait comme si il n'y avait que la galaxie d'Andromède et la Voie lactée.
Ouais.
Ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est que les galaxies satellites, et notamment nos deux plus grosses, le nuage de Magellan, qui est une grosse galaxie satellite de la Voie lactée, et la galaxie du triangle, M33, qui est une grosse galaxie de Andromède, ont fait beaucoup d'impact sur leurs galaxies respectives, et vont probablement changer leur vitesse, ou la vitesse de leur barycentre, avant la collision, bien avant la collision. Sont des sujets très très intéressants. Le fait de ramener plusieurs pièces dans l'équation dynamique et de plus considérer seulement qu'il y a la partie lumineuse d'Andromède et la partie lumineuse de la Voie lactée qui vont se rentrer dedans. Parce que là, on parle que de la partie lumineuse.
Ouais.
On
ne
parle pas de la partie matière noire. Si effectivement le domaine est
avéré.
Si c'est dominé à 80-90% par la matière noire, on pourrait s'imaginer que les halos de matière noire qui entourent ces galaxies n'ont pas forcément exactement la même dynamique que la partie lumineuse au centre.
Vaste débat. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
C'était
un plaisir de te recevoir et de t'écouter parler. On aurait pu prolonger encore avec plaisir, mais malheureusement, nous allons devoir rendre l'antenne pour la suite.
Merci à vous.
Merci à vous tous de nous avoir écoutés et on vous souhaite une bonne semaine en observant le ciel.
Oui.
À la prochaine.
À bientôt.
Au revoir.